7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour à tous les voisins et les voisines. En France, en cas de divorce, la garde des enfants est encore attribuée dans 80% des cas aux mères. Résultat, quelques 2 millions d'enfants voient rarement leur père. Pourtant, la loi du 4 mars 2002 permet de généraliser la garde alternée lors d'une séparation. Pourquoi cette loi est-elle si peu appliquée? Comment les pères vivent-ils la situation? Que sont-ils prêts à faire pour voir leurs enfants? Pourquoi les juges aux affaires familiales croient-ils davantage la version des mères plutôt que celle des pères? On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Emmanuelle Gobie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate principalement en droit de la famille. Raphaël Delpart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, romancier. Vous avez publié Le combat des pères aux éditions du Rocher. À mes côtés également, Philippe Guidal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'association Paternet. En fin d'émission, nous aurons notre rendez-vous mensuel avec le magazine Marie-Claire. Catherine Durand nous parlera du congé paternité. Et si vous avez des questions pour nos invités ou envie de témoigner, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est le même numéro pour nous laisser des messages sur WhatsApp.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète sépare.
Alors si vous le voulez bien, on va commencer cette émission avec un témoignage. Jean Latizeau s'est battu pendant 8 ans pour obtenir la garde alternée de sa fille, sans succès. Depuis, il s'est engagé au sein de l'association SOS Papa, dont il est le président bénévole. SOS Papa qui depuis près de 30 ans accompagne les pères dans son cas. Charlie Dupiot a rencontré Jean Latizeau dans son appartement à Paris. Sur la cheminée du salon, une photo de lui avec sa fille âgée de 19 ans aujourd'hui. Quand Maude en 1999. Jean et son épouse sont alors en couple depuis 2 ans.
J'avais 45 ans lorsque je suis devenu papa. Je m'en suis occupé comme d'une maman et comme d'une nounou dès les premiers jours de ma fille, en lui donnant le biberon la nuit, changeant les couches, le bain, etc. Et j'ai affaire, en revanche, à une maman qui est sans arrêt dans une sorte de récrimination sur plein de choses. Donc j'ai fait le dos rond pendant un certain nombre d'années. Et puis au bout de 6 ans, c'est finalement mon épouse qui a dit « bon, ça ne va pas, j'ai demandé le divorce » et qui a tout de suite précisé « mais pour Maude, tu es un très bon père, donc ce sera la garde alternée ». Ce que je trouvais évidemment d'une logique, d'une cohérence parfaite par rapport à ce que je viens de vous dire sur la façon dont j'avais accueilli, dont je m'étais occupé de cet enfant.
Votre fille Maude avait 6 ans à ce moment-là ?
Oui, à peu près. Elle a commencé à avoir des exigences financières. Pension alimentaire, prestations compensatoires, etc. Alors ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais attends, bon, déjà, c'est toi qui décides de rompre la famille. Et malgré ton niveau professionnel, tu demandes de l'argent. Puisqu'elle était chirurgien à plein temps. Il n'en est pas question. Et j'étais absolument persuadé qu'ensuite, la justice allait y voir clair. Mais en tout cas, la réponse de mon ex à l'époque, qui était manifestement mieux informé que moi, a été « puisque c'est comme ça, il n'y aura pas de garde alternée finalement ».
Et alors ça, comment vous l'avez pris ?
Sur le coup, je ne l'ai pris avec désinvolture, et ça c'était une grande erreur. Alors j'avais pris le choix, là aussi, trop candide, de prendre une avocate de type consensuel plutôt qu'un bulldog qui irait à la bagarre, etc. Et tout de suite, cette avocate, dès que j'ai exprimé que je souhaitais la résidence alternée, me dit « mais monsieur, mais vous n'y pensez pas. C'est quasiment impossible qu'un père obtienne la résidence alternée si la mère s'y oppose. » C'est tellement inimaginable qu'effectivement, j'ai continué à ne pas le croire. Bon, j'ai changé d'avocat qui n'a sans doute pas eu la même franchise d'ailleurs.
Et ensuite, alors quel a été le contenu de vos échanges avec votre ex-femme ?
On nous a demandé de faire une médiation familiale. Et pendant 8 séances, donc extrêmement laborieuses de médiation, j'ai effectivement essayé de convaincre. Et pendant 8 séances, madame est restée campée sur sa position parce qu'elle sait très bien que derrière, les juges vont lui donner raison. J'ai eu une pension alimentaire extrêmement élevée à régler, de 2000 euros par mois. Et à la fin, ça traîne comme ça dans les écritures. Je me baladais à poil dans l'appartement. Je punissais très régulièrement ma fille en la mettant à la porte de l'appartement et je la laissais de longues heures sur le paillasson sans qu'elle puisse rentrer. Il n'y a aucune preuve. Il risquait pas d'y en avoir puisque c'était complètement faux.
Et combien de temps a duré cette bataille juridique ?
Elle a duré 8 ans. 8 ans pendant lesquels j'ai toujours demandé la résidence alternée, pendant lesquels un court épisode près, je ne l'ai pas eu, et j'ai été ravalé, comme la plupart des pères dans ce cas-là, au fameux week-end sur deux, plus la moitié des vacances, plus un mercredi sur deux, et ça c'est encore... un cadeau, n'est-ce pas, qu'on vous fait quand on estime que vous êtes vraiment un bon père.
Et où vivait alors votre ex-femme ?
Elle n'a jamais vécu à plus de 2 km d'ici, de chez moi. Faire des efforts dans le domaine judiciaire de façon aussi prolongée, c'est un sport de riche. Puisqu'il faut payer des avocats pendant des années et des années. J'estime que ça m'a coûté la bagatelle de 60 000 euros. C'est des milliers d'heures, c'est des centaines de kilos de papier que je pourrais vous montrer, qui s'entassent encore dans des armoires. Oui. Tout ça pour rien. Et en effet, j'ai eu des passages, on va dire, à vide, pour parler pudiquement.
Dire des épisodes dépressifs.
Des épisodes dépressifs, bien entendu.
Votre fille était très jeune à l'époque. Comment elle a vécu tout ça ? Qu'est-ce qu'elle vous en a dit ?
Dans le cas de ma fille, oui, il y a eu quelques épisodes qui nouent encore la gorge. Elle m'a dit, puisqu'elle est fille unique, « Ah, tu sais, papa, c'est déjà pas drôle d'être fille unique, et en plus, maintenant, j'ai des parents séparés. » C'est des genres de choses qui font vraiment mal quand on aime ses enfants. Quoi. Quand vous êtes privé de votre enfant, c'est chaque seconde de votre vie.
Alors, en 2013, vous décidez d'arrêter les procédures ?
C'est que, en effet, je m'apercevais que ça faisait souffrir l'enfant, de savoir qu'il y avait toujours une procédure latente, qu'elle était plus ou moins impliquée là-dedans, etc. Elle avait, au total, elle a dû être auditionnée 3 fois. À partir de l'âge de 16 ans et demi, elle a décidé que ce serait une semaine chez papa, une semaine chez maman. Plus personne ne peut s'y opposer, quoi. En pratique, même les juges ne s'y opposent pas.
Maître Emmanuel Gobi, êtes-vous étonné par ce témoignage de Jean ?
Non, je ne suis pas étonnée parce qu'il correspond à d'assez nombreux pères qui viennent passer la porte d'un cabinet d'avocat pour être conseillé.
Philippe Guidal, est-ce qu'on peut dire que Jean Latizeau est l'exemple même de ces pères qui se font crucifier lors du divorce ?
Alors,
vous êtes trop fort.
C'est un exemple un peu particulier. Mais c'est un exemple parmi d'autres, c'est en tout cas un exemple caractéristique de cette catégorie de pères qui ont les moyens de batailler juridiquement, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est aussi un exemple un peu particulier en ce sens qu'il avait, lui, les conditions préalables nécessaires pour la réalisation d'une résidence alternée, c'est-à-dire la disponibilité professionnelle et la proximité géographique avec la mère. Donc dans ce cadre-là, qui ne concerne quand même pas tous les pères malheureusement, il est un assez bon exemple de ce que peut être effectivement un système judiciaire plus ou moins hostile au père.
Raphaël Delpart, Jean Latizeau n'est pas un cas isolé. Hein. Dans votre livre, Le combat des pères, vous avez recueilli de multiples témoignages tout aussi incroyables les uns que les autres.
Oui, c'est une découverte terrible, une déchirure chez les individus, ces pères qui sont littéralement éjectés. Qui sont éjectés à la fois du cercle familial, évidemment, à partir de la séparation, et puis qui sont éjectés même quelque part de la société. Enfin, la société ne s'intéresse pas, ne s'occupe pas, ne s'intéresse pas, à part des avocats comme Emmanuel Gobi qui est là avec nous. Mais c'est le cas de Jean Latizeau, vient de le dire Philippe Guidal, est un exemple, mais c'est pas le plus terrible. Le plus terrible, c'est qu'effectivement, il y a des pères qui n'ont pas les moyens de batailler pendant des années, qui n'ont pas de lieu pour recevoir les enfants et qui se retrouvent dans ce qu'on appelle les lieux médiatisés. C'est une espèce de lieu monstrueux
où lieu
on voit le neutre gardé, entre guillemets, on va être prudent et courtois pour les assistantes sociales, etc. Gardé par les assistantes sociales le jour où il peut voir son enfant et il arrive que des pères font 500 km pour voir leur enfant 2 heures.
Emmanuel Gobi. Alors non, mais ça, moi je me permets de rebondir à Raphaël sur la question des lieux médiatisés. C'est quand même voir son enfant dans un lieu médiatisé, ça veut dire qu'il y a une vraie problématique ou de maltraitance ou de rupture. Non mais enfin c'est pas anodin un lieu médiatisé. C'est vraiment quand il y a un vrai problème hein, que le lieu médiatisé est organisé.
Maître, je ne vous suivrai pas complètement, je veux dire, parce que chaque cas est un cas, évidemment, un cas d'espèce, un cas à part, mais j'ai fait à l'intérieur du livre, j'ai fait des enquêtes, une enquête notamment, et il n'y avait pas de, même, ni maltraitance, ni de rupture, etc. Il y avait l'impossibilité pour le père de recevoir chez lui, par rapport au lieu où il habitait, c'est-à-dire à l'hôtel, ou etc., parce que ne pouvant plus, justement, vivre dans un endroit décent, et etc., où il pouvait recevoir son enfant. Alors, il y a des cas, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais disons tout de même qu'une grande majorité, enfin, des dossiers que j'ai étudiés, des gens que j'ai rencontrés, des pères que j'ai rencontrés, c'est pas tous des cas extrêmes, quoi.
Philippe Guidal, quand on vit tous les jours avec son enfant et que du jour au lendemain, quelqu'un décide qu'on ne le verra plus qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances, qu'est-ce qui se passe dans la tête?
Alors, il y a certainement autant de réponses que de pères concernés, voire même que de mères concernées, parce que cela peut arriver également à des mères. Mais en tout cas, pour l'avoir vécu moi-même, et pas avec seulement un enfant, mais quatre, c'est probablement la plus grande violence qui m'ait jamais été infligée dans une vie qui en comptait déjà quelques-unes. C'est évidemment un désastre total. Et surtout quand, en plus, tout cela est organisé dans un système qui vous rend totalement passif. C'est pour ma part, hein, je le répète, chacun peut réagir différemment sur ce genre de choses, mais ce qui a été le plus désagréable pour moi a été de me retrouver totalement passif face à une machine judiciaire qui avançait vers moi, tels ces rouleaux compresseurs qu'on voit encore sur les chantiers, et vous ne pouvez pas l'arrêter. Et ça, c'est une violence psychologique totale qui s'exerce non seulement sur le père, mais c'est un point sur lequel je me permets de rebondir à propos donc du témoignage que nous avons entendu de Jean Latizeau, qui a mis l'accent sur la souffrance également imposée aux enfants, qui sont les grands oubliés. On parle dans les médias de temps à autre du combat des pères, parce que les pères sont des adultes, qui ont donc quelque part les moyens de se faire entendre à travers des associations, des rencontres avec les journalistes. Les grands oubliés de cette histoire,
les premières victimes,
ce sont les enfants. Ceux qui sont les premières victimes, enfin, c'est une lapalissade pratiquement, mais ça mérite quand même d'être dit et redit et répété, ce sont les plus grandes victimes. Et les enfants, là-dedans, donc, n'ont rien à dire non plus. Ils sont les victimes d'un conflit d'adultes. Le système judiciaire les ignore de façon quasi générale. Les auditions d'enfants sont des choses relativement rares dans la pratique judiciaire française. Pour ma part, je pense d'ailleurs que c'est un bien qu'on essaye de pas mêler les enfants outre mesure à des procédures qui ne concernent que des adultes. Mais voilà, pour eux, c'est encore plus terrible.
Emmanuel Gobi, je citais tout à l'heure la loi du 4 mars 2002. Que dit-elle exactement ?
Alors, cette loi du 4 mars 2002 va... Alors, ça a été un vrai bouleversement juridique à l'époque, puisqu'elle a enfin mis en avant la coparentalité. C'est vraiment un bouleversement et cela va permettre aux parents qui sont donc séparés, qu'ils aient été mariés ou pas mariés, peu importe, de remettre les parents sur un pied, on va dire, d'égalité en ce qui concerne l'exercice de leur autorité parentale. Mais donc à l'issue d'une séparation.
Mais en ce qui concerne la garde alternée, parce que est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté des mots dans la loi ? Parce que le texte parle de développer la résidence alternée, mais pas d'instaurer la résidence alternée.
Alors, aujourd'hui, le texte applicable relatif à la résidence de l'enfant, donc, s'agissant de l'alternance, c'est l'article 373-2-9 du Code civil. Et il a été encore réformé et il précise que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Voilà ce que nous avons aujourd'hui dans nos textes de loi.
Donc le choix est laissé au juge.
C'est une faculté. Et on se rend compte dans notre pratique que c'est extrêmement difficile dès lors qu'il existe un conflit fort, indépendant des qualités éducatives de chacun des deux parents. Et bien dès lors qu'il existe un conflit, les magistrats peuvent avoir tendance à refuser la résidence en alternance, quand bien même, et là on revient sur l'exemple de Jean Latizeau tout à l'heure, alors qu'il explique avoir toutes les conditions matérielles pour accueillir sa fille, avoir une distance géographique extrêmement proche entre les deux domiciles, être hors cas de situation de maltraitance, c'est-à-dire à nouveau des qualités éducatives chez les deux parents qui sont reconnus, des horaires de travail adaptés, avec un rythme qui permet d'accueillir, d'emmener l'enfant à l'école, d'être là, d'être présent le soir, donc un logement. Et bien quand on a même donc toutes ces conditions réunies pour mettre en place une résidence en alternance, et bien la notion de conflit, de difficulté d'entente entre les parents peut être un rempart à l'établissement de cette résidence en alternance. Et moi, ce que je vois, et ce qui est profondément injuste à mon sens, c'est que les magistrats ne vont pas forcément aller dans la finesse de la compréhension du conflit et savoir si un des deux parents va être plus générateur de conflit que l'autre. Donc,
et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le temps ? Parce qu'ils ne sont pas formés pour ? Pourquoi ?
Alors, moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, il faudra un petit peu réfléchir un petit peu plus à cette notion de conflit. Les magistrats, ce qu'il faut savoir, moi, je me suis renseignée un petit peu avant l'émission, parce que on va souvent dire que, voilà, on va critiquer un petit peu la formation des magistrats. On va dire souvent, ce sont des femmes, donc forcément, elles vont réagir avec leur prisme, avec leur interprétation de la situation, leur propre projection personnelle. Je me suis attachée à un petit peu vérifier quels étaient les enseignements qui étaient prodigués à l'École nationale de la magistrature encore pour la dernière, les derniers magistrats formés. Et alors, il faut savoir, et c'est vraiment important, qu'ils n'ont absolument pas d'approche genrée de la résidence en alternance, qu'on leur explique, il n'y a aucune différence qui est faite entre le père et la mère. On leur explique que c'est vraiment l'intérêt de l'enfant qui prime, qui doit être analysé au cas par cas, mais il y a quand même une réticence sur la résidence en alternance dans les trois premières années de la vie des enfants. Pourquoi ? Parce qu'il leur est expliqué une problématique de l'attachement et la nécessaire stabilité de l'enfant dans un lieu et auprès d'un parent en cas de séparation. Donc, je pense que le débat aujourd'hui, c'est un débat qui peut être enflammé. Hein. On a vu là, on a eu en 2017 une tentative de changement de la rédaction de l'article que je vous ai lu tout à l'heure, avec des associations féministes qui expliquaient que la résidence en alternance, c'était une catastrophe, qu'il fallait surtout pas l'inscrire dans la loi parce que c'était dangereux pour les femmes. Eh bien, il est important de savoir que celui qui va prendre un cas très particulier, le magistrat, n'est pas censé imposer un dogme et dire « il faut mieux que l'enfant soit chez la femme, il faut mieux que l'enfant soit chez le père », mais vraiment, en fonction du cas d'espèce, statuer en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant.
Mais on est quand même à 80%, dans 80% des cas, la résidence alternée est attribuée à la mère, Philippe Guidal.
Comment alors, attention. Bon... oui. Oui, allez-y Philippe.
Alors bon, ouais. Déjà, ce n'est pas la résidence alternée qui est fixée chez la mère dans 80% des cas, mais la résidence habituelle. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, ouais. Les mots sont des armes. Vous avez utilisé à plusieurs reprises, je ne le reproche pas, tout le monde le fait. Hein. Mmh. Le mot de garde est affreux, il a disparu du corpus législatif français en 1987, avec la loi Maluret, on parle depuis de résidence de l'enfant. Donc de résidence alternée ou de résidence habituelle. Donc effectivement, dans 80% des cas, la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez la mère, mais pour une raison très simple, c'est parce que dans 80% des cas, le père ne demande rien d'autre. On entend souvent dans les milieux de pères divorcés ou séparés, sur les innombrables groupes de pères comme ça qui pullulent sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux, des formulations telles que le père attribue ou donne la garde à la mère dans 80% des cas. Comme si le juge était une espèce d'être divin qui planait au-dessus des êtres humains et qui décidait arbitrairement. Non, le juge est là pour trancher entre des demandes formulées par les uns et les autres. Si les pères ne demandent pas ni la résidence habituelle ni la résidence alternée, ils ne l'auront pas parce qu'ils ne l'ont pas demandé tout simplement.
On va écouter un autre témoignage laissé sur WhatsApp par un auditeur de Montréal.
Bonjour, je m'appelle Loïc, j'habite à Montréal. Je suis le papa d'une petite qui a 5 ans aujourd'hui, qui est née alors qu'on vivait avec sa maman à Montréal. En 2016, sa maman est partie à Marseille en emportant avec elle notre fille, suite à un jugement qui a été rendu par la Cour supérieure de Montréal, qui lui a donné la garde, moyennant des engagements à maximiser les contacts entre la petite et moi, une fois qu'elle serait en France, en m'autorisant à la voir à tout moment où je pourrais aller me rendre en France, en me donnant des accès par Skype pour pouvoir parler avec elle 4 fois par semaine. Dès son retour en France, la mère s'est mise à ne plus respecter les jugements. La cour d'appel a rappelé à l'ordre la maman ici, en lui demandant de respecter les jugements. Elle n'en a rien fait. La Convention internationale des droits de l'enfant a été saisie par mes soins, a constaté qu'il y avait un gros problème. Elle a saisi ses homologues en France, qui a dépêché une médiation, qui n'a jamais vraiment rien donné, la mère refusant tout contact, toute collaboration. Après près de 2 ans de procédure, tout ce qui s'est passé, c'est qu'on a diminué tous les droits de la petite d'avoir un papa présent dans sa vie au fur et à mesure. Tous les jugements ont été prononcés pour ajuster les décisions de justice à ce qu'entendait tolérer la mère. Donc tous les points qu'elle ne respectait pas dans les jugements précédents ont été systématiquement supprimés des jugements suivants, à tel point qu'on est arrivé à une décision où on m'interdit d'avoir des contacts avec ma petite quand je pourrais venir en France, alors que c'était le fondement de la décision initiale. En plus de maintenir une pension alimentaire à un montant maximal, la juge a décidé de reporter à ma charge l'intégralité des frais de déplacement en avion consécutifs à la décision de déménager de la maman. Et la situation est écrasante financièrement, au point où je n'ai même plus de quoi subsister correctement, puisque le reste à vivre, une fois que les avions et la pension est réglée, est d'une centaine d'euros par mois pour moi. Donc c'est devenu abominable. Et donc je fais face à une indifférence totale des services français, que ce soit les services de justice ou les services sociaux. Et les conséquences sur l'enfant, sur moi, sont catastrophiques, mais personne ne fait rien. Voilà, je voulais vous laisser ce témoignage. Bonne émission.
Alors ce témoignage est assez terrible, et là encore, on a un peu de mal à comprendre. Maître Gobi, quel est le jugement qui prévaut quand les parents ne vivent plus dans le même pays ?
Le jugement qui prévaut, c'est-à-dire...
C'est-à-dire que là, il y avait des jugements rendus au Canada. La mère est rentrée en France, à Marseille, avec la petite fille. Et on a l'impression, en écoutant Loïc, que la justice française a ignoré les jugements rendus au Canada.
Bon, c'est un petit peu complexe quand on est dans un cas de droit international privé. Mais là, ce qui arrive concrètement à ce père, et c'est pour rebondir, je voulais compléter mon propos de tout à l'heure, quand j'expliquais qu'en principe, la formation, c'était une formation neutre, donc on n'était pas censé avoir des décisions orientées. La réalité de la pratique, là je parlais de la théorie, la réalité de la pratique, c'est que nous faisons face à un aléa judiciaire qui est incommensurable et qui est vertigineux. C'est-à-dire que nous, quand on est praticien du droit, on défend un père, on défend une mère, mais ça vaut également pour les mères, de manière générale. On ne sait jamais comment ça va se passer. On a beau avoir le meilleur dossier du monde, avoir plein de certitudes, des pièces excellente. On ne sait jamais comment ça va se passer, parce que quand on passe le cabinet d'un juge aujourd'hui, on ne sait jamais réellement ce que ça va donner, puisque en fonction de la même juridiction et en fonction du cabinet du juge devant lequel on va tomber, il va interpréter la situation de manière différente. Et c'est ça qui est terrible et qui est vertigineux. L'exemple du papa est absolument on sent que c'est une grande souffrance pour lui, la distance qui peut être mise. Et quand on sait qu'il y a énormément maintenant de couples binationaux, que les gens déménagent énormément, cette source d'angoisse et vraiment d'insécurité pour les personnes.
Raphaël Delbois.
Oui, je veux rebondir sur ce que vient de dire Maître Emmanuel Gobi. Il y a des pères qui, le week-end, quand ils peuvent voir leur enfant, et l'enfant aussi, parce qu'on n'oublions toujours pas l'enfant, font des il y a dans le livre un cas Paris-Barcelone, ils se croisent sur le quai de la gare, ils prennent l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant et son père, quand ils arrivent à se voir, passent leur week-end dans le train. Et comme l'a expliqué cette personne du Canada, les frais du train, les frais du voyage, du billet de train, sont à la charge du père. Dans le cas de ce témoignage, la mère est, comme on appelle ça, elle travaille pour l'Union européenne, elle est détachée, elle est française, elle est détachée à Barcelone, elle a un salaire de 5 ou 6 000 euros par mois, ce qui quand même elle pourrait payer au moins un aller ou un retour de son enfant. Eh bien non. Eh bien non, et comme dit Maître Gobi, là on est devant le juge. Alors moi j'appelle ça des réactions biologiques de juge, homme ou femme d'ailleurs. Il n'y a pas de différence dans les jugements, enfin dans les réactions en tous les cas. Et c'est ça, il faut encore une fois rappeler la situation de ces enfants qui ne voient pas leur père parce que la mère est partie du pays. Je prends un autre cas d'une mère qui est partie en Australie. En Australie. Donc, ils se voient par Skype. Voilà, ils se parlent par Skype. Donc, c'est terrifiant pour l'enfant. C'est terrifiant pour l'enfant et c'est terrifiant, évidemment, pour le père, mais pour l'enfant.
Je rêve d'ailleurs féerique. Je rêve d'ailleurs atmosphérique.
Oui, ne t'haque, ne pique. Ma habibi, fichina. فجنا فرحبا ندع الفين وسهين
Je rêve d'ailleurs de ville constellée Je rêve d'ailleurs de pays safari
Oui, نضحك ونبكي مع حبابي فجنا فجنا فرحبا
rêve d'ailleurs, Rachida Brakni, Gaëtan Roussel, sur RFI dans 7 milliards de voisins. Divorce quand les pères se retrouvent privés de leurs enfants. On continue d'en parler avec nos invités. Emmanuelle Gobi, avocate, principalement en droit de la famille. Raphaël Delpart qui signe le combat des pères aux éditions du Rocher. Et Philippe Guidal, responsable de l'association Paternet. On va aller au standard pour prendre un nouveau témoignage. Jean, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes divorcé et vous n'avez pas vu vos filles depuis 2008. Racontez-nous.
Oui, j'ai été marié pendant plus de 20 ans. Et j'avais, au moment de la séparation qui a eu lieu en 2007, deux filles. L'aînée avait 19 ans et puis la deuxième, 12 ans. Et donc il y a eu de grosses difficultés dès le départ à faire respecter les décisions de visite en ce qui concerne les droits de visite et d'hébergement. Et une multitude de décisions qui n'ont rien changé. En fait, le juge faisait comme s'il ne savait pas que les décisions n'étaient pas respectées et il continuait de reconduire des droits jamais respectés. Il y a eu plusieurs déménagements sans prévenir de la part de mon ex-épouse, jusqu'à ce que moi j'appelle une disparition de mes enfants, et je cherche toujours à savoir ce que sont devenus mes enfants. Je sais que je suis grand-père d'au moins un petit-fils qui a 7 ans maintenant, mais que j'ai jamais vu, même pas en photo, et donc qui forcément ne connaît pas sa famille.
Donc vos droits de visite n'ont pas toujours été respectés. Est-ce que vous aviez alors déposé plainte pour non-présentation d'enfants ?
Oui, bien sûr, oui. Alors, d'ailleurs, en France, c'est déjà une performance de faire enregistrer une plainte pour non-représentation d'enfants, parce que près d'une fois sur deux, le policier explique que c'est un simple différend familial et ne prend qu'une main courante qui n'a aucune valeur judiciaire. Et lorsqu'on parvient à faire enregistrer une plainte, la plainte elle est transmise au parquet, et là, c'est le parquet qui ne fait rien. Alors, au bout de plusieurs plaintes, il y avait une rupture qui s'installait. J'ai engagé une citation directe devant le tribunal correctionnel. Et donc le juge a passé un savon à mon ex-épouse à l'audience, mais l'a relaxé. Et puis ça, les refus de présentation ont continué. Et voilà quoi, jusqu'à ce que mes filles deviennent grandes et étaient complètement coupées. Et je dirais moi instrumentalisées dans cette affaire au point qu'elles en arrivaient à dire qu'elles ne voulaient plus me voir.
Vous voulez dire que votre ex-épouse a manipulé vos enfants ?
Je ne sais pas dans quelle proportion, mais je vois qu'il y a des auditions de ma fille où elle déclarait faire des cauchemars en imaginant que son père allait la tuer. Mmh. Donc on en était là. Et bon, il arrive un moment où je pense même que mes enfants en arrivaient à souffrir de la situation, parce que pour faire de telles déclarations, ça devenait quand même un peu grave. Moi, ce que je voudrais, c'est savoir qui sont les responsables de cette situation, ce que sont devenus mes enfants, qu'est-ce qu'il faut faire pour établir un contact avec elles, parce qu'il n'y a aucune raison de mon fait à cette disparition.
Maître Gobi, qu'est-ce que Jean peut faire actuellement ? De quel recours dispose-t-il ?
Ils ont quel âge, vos enfants ?
Elles sont majeures maintenant, toutes les deux, oui.
Écoutez, j'ai envie de dire rien. Légalement, c'est impossible à partir du moment où les enfants ont 18 ans. Et je vais même vous dire avant, parce qu'à partir de 16 ans, quand on a une rupture du lien, c'est-à-dire un enfant qui est récalcitrant, qui ne veut plus voir l'un des parents, c'est extrêmement difficile. Et ça, c'est profondément injuste également, quand il n'y a pas de raison rationnelle, j'entends bien, de rétablir le lien. C'est très difficile.
Mais les grands-parents ont un droit de visite juridiquement. Et donc, Jean est grand-père maintenant. Donc, il pourrait réclamer le droit de voir...
Mais il n'est pas grand-père de... Alors, les enfants de ses propres...
Oui. Une de vos filles a eu un enfant,
oui,
hein, c'est ça, Jean ?
C'est ça, oui, oui. J'ai au moins un petit-fils qui doit avoir 7 ans maintenant.
Oui, mais alors, ce sont des, si vous voulez, les dossiers de grands-parents qui demandent un droit de visite sur les petits-enfants, ça fait partie des dossiers les plus difficiles qu'on peut avoir à traiter. Pourquoi ? Parce que quand un grand-parent en est à demander en justice à avoir ce lien avec ses petits-enfants, ça veut dire que son propre enfant
refuse le lien. Et c'est extrêmement délicat. Moi, j'ai eu des dossiers comme ça, dont le plus récent que j'ai eu à traiter, ça a été un combat judiciaire qui a duré des mois et des mois, où il y a eu des mesures d'investigation, où on s'est rendu compte que les grands-parents, c'était mes clients, qui sollicitaient le droit, étaient des parents tout à fait gentils, et que c'était à l'occasion... Il y avait eu un excellent rapport avec leur propre fils pendant des années, mais à l'occasion d'un remariage, alors que leur fils avait 40 ans, du jour au lendemain, il s'est éloigné de ses propres parents. Et donc, la naissance du nouvel enfant a conduit à ce qu'il y ait un rejet. Eux avaient une excellente relation avec leur propre fils, si vous voulez. Mais c'est très, très difficile à établir, surtout en plus... quand les parents du petit enfant sont séparés. Parce que aller mettre des droits alors qu'on a une résidence en alternance ou déjà que l'un des deux a un droit de visite, intégrer les grands-parents, ça donne quoi? Ça donne une fois par mois, et en réalité, dans les dossiers que j'ai eu à connaître, ça s'exerce au moment des vacances, 3-4 jours. Ça veut dire 2-3 fois dans l'année, 3-4 jours. Quand on est vraiment sur une volonté, sur un refus total de lien. C'est hyper douloureux comme dossier.
Jean, aujourd'hui, vous avez renoncé à tout dialogue avec vos enfants ?
Ah bah absolument pas, non, c'est une situation qui est insupportable, inadmissible. Moi je veux savoir ce que sont devenus mes enfants, et puis je veux savoir qui sont les responsables en fait de cette disparition, parce que je ne sais toujours pas en fait aujourd'hui ce qu'il aurait fallu faire de plus ou faire différemment pour que le lien que j'avais avec mes enfants soit maintenu. C'est-à-dire que pour moi il y a une pratique des affaires familiales qui rend totalement impossible le maintien des liens avec ses enfants dès lors que le parent qui a la résidence principale y est opposé. Donc c'est complètement contraire au texte de loi, mais ça correspond aux pratiques des affaires familiales. Moi, c'est le constat que je fais sur ma propre affaire, quoi.
Maître Gobi.
Moi, j'ai tendance à dire que les premiers responsables sont les parents. Le système judiciaire, il reçoit une affaire et il la traite. Dans votre cas, la première responsabilité, c'est quand même... la mère, après vous avez évidemment votre port de responsabilité, il faut réussir à faire son autocritique, mais ce qui est évident, c'est s'il y a eu manipulation dans votre affaire, elle vient forcément de l'autre parent. Donc, une affaire de justice, un juge qui vient trancher une situation, il doit faire avec la parole de l'un ou de l'autre. Et à partir du moment où on a un des deux parents qui va expliquer que le lien n'est pas possible, que c'est difficile, à partir du moment où le magistrat va aller dans un sens plutôt que dans un autre, ça veut dire qu'il va suivre la parole de l'un des deux. Donc, c'est la responsabilité aussi des deux parents et du parent qui va couper le lien, avant toute chose.
En tout cas, merci beaucoup Jean pour votre témoignage. Raphaël Delpart, dans votre livre, vous citez l'association SOS Papa qui indique que 1300 pères se suicident chaque année. Est-ce que c'est toujours un geste lié au problème de la garde d'enfants ?
Oui, c'est lié à la garde d'enfants, à la destruction de l'individu, c'est-à-dire à la dévitalisation en quelque sorte du rôle de père, du rôle de citoyen, du rôle de rejet de la société. Vous avez donc ces pères qui, j'en ai rencontré, chefs d'entreprise, petite entreprise mais qui fonctionne, et qui, à cause des ponctions, à cause de la situation, se retrouvent, n'arrivent plus à gérer leur entreprise, se retrouvent à vivre dans leur voiture, et encore quand la voiture n'est pas saisie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a deux situations. Soit le père, on a entendu au début de l'émission Jean Latizeau qui a des moyens, et d'autres bien sûr qui ont des moyens de battre, se combattre pendant des années, mais d'autres ne l'ont pas, même s'ils sont chefs d'entreprise, et qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent SDF, qui se retrouvent à la rue. Soit ils disparaissent de la société, c'est-à-dire... ils disparaissent, ils vont à l'étranger, ils lâchent les amarres, ou bien le geste ultime, le geste grave, le geste définitif, ils se suicident. C'est une situation terrifiante. Vous avez des pères, j'aurais juste encore un mot si vous permettez, vous avez des pères qui vont, on n'a pas évoqué ça, je pense que nous n'aurons pas le temps de le faire, mais des attouchements sexuels, qui sont accusés d'attouchements sexuels, qui se retrouvent en prison. J'ai un témoignage d'un père qui dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir les menottes, pour être, avoir la garde à vue, pour me retrouver en prison. Et alors, évidemment, ça a des retombées terrifiantes sur son activité professionnelle. Son employeur ne veut plus le prendre, etc. etc. Enfin,
quand son innocence est reconnue, ça prend des années.
Et même quand son innocence, bien sûr, est reconnue. C'est ça qui est terrible.
On va retourner au standard. Nous attend David. David, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous habitez dans la Drôme, en France. Vous êtes divorcé. Vous avez une fille de 6 ans. Est-ce que vous avez la garde de votre fille? Est-ce que vous la voyez? Comment ça s'est passé lors du divorce?
Alors, écoutez, c'est quand même une situation un petit peu étrange parce que j'ai élevé ma fille seule, j'allais dire entre guillemets, pendant que la mère, elle allait à l'université. Et donc, du matin au soir et même les week-ends, pendant 3 ans et demi, donc de sa naissance jusqu'à 3 ans et demi. Et quand il y a eu le divorce, j'ai eu d'abord la garde partagée quelques temps, vous voyez. Mais après, un autre juge m'a a donné la garde à mon ex-épouse. Et mon ex-épouse ne permet pas que j'entende ma fille au téléphone depuis 15 mois quand même. Et je n'ai pas vu ma fille depuis presque 2 ans et demi. Imaginez un peu.
Qu'est-ce qu'on peut répondre à David, Philippe Guidal, vous qui êtes responsable de l'association Paternet et qui venez en aide aux pères en souffrance?
Alors, non, pas tout à fait. La question aurait dû être adressée plutôt à Maître Gobi. Et Paternet n'est pas une association qui vise à aider les pères comme peut le faire, par exemple, SOS Papa. Nous sommes un collectif davantage de recherche, de réflexion. Nous plaçons sur un plan universitaire. On n'est pas dans le domaine de l'aide individuelle. Donc, moi, à titre personnel, le seul conseil que je pourrais donner à ce père, qui malheureusement est dans une région assez déshéritée sur le plan associatif et combat des pères, mais ce serait d'essayer de prendre contact avec l'association la plus proche de lui et éventuellement de reprendre contact avec son avocat, parce que s'il a divorcé, c'est probablement qu'il a eu au moins un avocat avec lui pour essayer de résoudre son problème.
Maître Gobi ?
La difficulté, c'est que ce que je crois comprendre de la situation, c'est que vos droits ont été suspendus. Et évidemment, il faut savoir pourquoi, quelles sont les raisons de la suspension des droits. On peut pas comme ça dire ce qu'il faut faire. Et si c'est injuste, il faut se battre. Il faut accepter de rentrer dans une sorte de protocole et de stratégie de reprise du lien. Et donc, faut essayer de rentrer dans un cadre. Et puis voilà, prendre son bâton de pèlerin et pas lâcher, ne vraiment pas lâcher. Les erreurs judiciaires existent, ça c'est certain, mais si on ne porte pas ce combat, on peut pas le gagner, ça c'est clair et net. Il faut juste y aller, il faut un déclic. Je pense que de manière générale, il faut que les pères aient ce déclic-là, c'est l'intérêt de tous, hein.
Mais David, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci de nous avoir appelés. 7 milliards de voisins et partenaires de Marie-Claire. Nous avons chaque mois un rendez-vous avec le magazine féminin. Catherine Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez dans le dernier numéro de Marie-Claire une grande enquête sur le congé paternité. Une enquête qui prend l'allure d'une campagne. Alors pourquoi réclamez-vous l'allongement du congé paternité ?
Parce que nous sommes le journal qui défendons le droit des femmes et on sait très bien à Marie-Claire que le congé de paternité est une des clés de l'égalité femmes-hommes. Et qu'aujourd'hui, les pères ne prennent pas beaucoup le congé de paternité qui est très court. Et le gouvernement avait demandé un rapport à l'IGAS. L'IGAS a rendu son rapport en septembre dernier préconisant un allongement du congé de paternité à 4 mois. À 4 semaines. Et Édouard Philippe a botté en touche. Et c'est quand même très dommage parce que quand l'enfant paraît, une mère sur deux interrompt ou réduit son activité professionnelle contre un homme sur 9.
Et que vous ont dit les hommes que vous avez rencontrés pour cette enquête ?
En fait, on a 12 hommes en colère, des artistes, des journalistes, des politiques qui posent dans Marie-Claire avec un bébé, qui sont pères et qui disent que c'est très important d'abord de créer un lien très tôt avec son enfant. Et puis, c'est aussi soulager la mère et c'est aussi dire que le maternage, c'est pas que pour les femmes. Voilà. Et que le délit de maternité dans les entreprises, il deviendra beaucoup moins grave si les hommes prennent un congé de paternité.
Mais est-ce que toutes les entreprises aujourd'hui en France permettent à leurs employés de prendre un congé paternité ?
Non, il y a les trois jours obligatoires à la naissance.
Mais après vous avez droit à 11 jours. Ça pose problème.
Voilà. Et en fait, il y a 7 pères sur 10 qui prennent les 14 jours, ça va être 3 jours obligatoires et 11 jours. Il n'y en a que 7 sur 10. Alors que la jeune génération, les sondages montrent qu'ils sont à fond pour ça. Et il y a des entreprises où c'est pas très bien vu. On sait que c'est plus facile dans certains milieux que dans d'autres. Et puis, il y a des entreprises qui sont un peu des modèles, mais c'est les grosses boîtes qui peuvent se permettre d'offrir parfois même 2 mois, 4 mois, mais souvent 1 mois. Certaines grandes entreprises, mais pas toutes.
Est-ce qu'il faudra davantage que votre enquête pour faire bouger un peu les lignes du côté du gouvernement, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la non-réceptivité du Premier ministre Édouard Philippe ?
Bah, j'aimerais bien qu'on ait ce pouvoir, mais je pense. Enfin, j'ai vu que Marine Schiappa avait remis un peu le sujet là.
Maître Gobi.
Ah oui, oui, on a pu entendre. Je trouve que c'est très, très positif. Hein. On ne sait pas ce que ça va donner, mais a priori, elle a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de favoriser les pairs. Moi, je dirais simplement, pour ce qui me concerne, et je le pense réellement très profondément, le droit des pairs, le combat des pairs, pour moi, c'est un combat féministe. L'indépendance financière des femmes, c'est une vraie liberté, une liberté de choix et travailler. C'est évidemment ne pas être présent en permanence pour s'occuper des enfants. C'est 14 jours de congé paternité par rapport aux 4 semaines légales des femmes, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. On pourrait tout à fait penser à ce que si vous voulez, on ait une égalité homme-femme sur ce plan, et en plus ça serait aussi l'intérêt de l'enfant en ce qui concerne les premiers mois de sa vie. 14 jours, c'est absolument ridicule. Mais c'est combien de femmes vont changer de métier à l'issue de la première grossesse? C'est vraiment une question habituelle qui se pose. C'est comment est-ce qu'on va s'organiser au quotidien quand on a son premier enfant, voire son deuxième enfant. Et c'est un sujet qui doit concerner tous les parents et pas seulement les mères. C'est pas normal, par exemple, que les congés maternité, notamment pour les petites entreprises, ne soient pas pleinement couverts. Comment voulez-vous? Alors, c'est beau les droits, mais il faut déjà peut-être obliger les pères à prendre ces fameux congés pour qu'il n'y ait pas de pères stigmatisés parce qu'ils vont prendre leur congé plutôt que d'autres. Enfin voilà, pour moi, c'est un projet sociétal et c'est pas du tout genré, c'est hommes et femmes, même combat.
Un mot, Raphaël Delpart, sur le congé paternité.
La CAF avait lancé, mais je ne veux pas trop m'étendre dessus, j'ai plus les éléments en tête, d'une manière claire, la CAF avait lancé le carnet du père. Le carnet du père, il y avait une grande conférence, etc. J'ai récupéré beaucoup d'archives là-dessus. Donc, je veux dire, c'est comme ce que vient de dire Maître Gobi, c'est-à-dire que c'est vraiment, je veux dire, c'est une porte ouverte, le père est indispensable, et donc on sent bien qu'il doit avoir cette égalité également lorsque il y a une naissance.
Merci Catherine Durand, votre enquête est à lire dans le dernier numéro de Marie-Claire. Bonne journée à vous. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Emmanuel Gobi, avocate, principalement en droit de la famille. Philippe Guidal, responsable de l'association Paternet. Et Raphaël Delpart, je renvoie nos auditeurs à votre livre « Le combat des pères » aux éditions du Rocher. 7 milliards de voisins touchent à sa fin. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azéroal, Delphine de Dianous, Charlie Dupio de m'avoir aidé à préparer cette émission réalisée par Romain Dubrac. Demain, nous nous poserons une nouvelle question. Qu'apprend-on en dehors de l'école grâce au numérique et à l'Internet illimité? Si vous voulez témoigner ou nous poser des questions, un seul numéro, le 33 1 84 22 71 71, qui fonctionne aussi sur WhatsApp pour nous laisser des messages. Et vous pouvez également nous écrire sur la page Facebook de l'émission. Bonne journée, à demain.